I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad-free. That's amazon.com/sports ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous draft de Touchdown Actu. À quelques jours maintenant, une échéance qui se rapproche à grands pas, cette draft NFL 2022 prévue du côté de Las Vegas. On s'intéresse à une nouvelle équipe en cette journée consacrée donc aux pastilles quotidiennes et aux priorités des franchises NFL dans l'optique donc du prochain repêchage, comme on dit chez nos amis canadiens. Et aujourd'hui, on va parler des Buffalo Bills, numéro 25, donc de ce premier tour, équipe éliminée en play-off, donc en tour de division, dans des conditions assez dramatiques du côté de Kansas City. Pour parler de la situation actuellement des Bills et de leurs besoins au cours de la draft, Alex Locke est en ma compagnie. Salut Alex.
Salut Greg, bonjour à tous.
Un plaisir de te retrouver pour les quatre pastilles à venir, en tout cas, au cours de ces prochains jours. Je le disais, ce n'est pas un secret, depuis plusieurs jours maintenant, on s'intéresse à des équipes qui ont plus besoin, on va dire, de se perfectionner que vraiment blinder, on va dire, de manière flagrante sur la draft. J'ai donné un petit peu les composantes de la free agency des Bills, mais en tout cas, on a fait dans le séduisant. L'une des signatures majeures, c'est forcément en défense, c'est le de Von Miller, pass rusher des Los Angeles Rams. On avait également O.J. Howard, par exemple, au poste de tight end, ancien des Buccaneers, pour renforcer le domaine aérien. Jamison Crowder, qui arrive également pour compenser le départ de Cole Beasley. Donc, au niveau des cibles, on a compensé. Il y a eu des départs sur la ligne offensive, avec notamment celui de John Feliciano, qui avait quelques petits problèmes de blessure ces derniers mois, remplacé numériquement par Roger Saffold, ancien des Tennessee Titans. Donc, globalement, l'ossature est plus ou moins la même, on va dire. Il y a même des renforts que j'ai oubliés sur la ligne défensive, avec notamment Daquan Jones, ancien de Tennessee, si je ne dis pas de bêtises, et Jordan Phillips qui revient au bercail après être passé du côté d'Arizona. Au niveau des choix de draft chez les Bills au cours de cette année, on a donc un premier tour, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, deux sixièmes et un septième. Du coup, Alex, quels sont les besoins par rapport à cette free agency séduisante? Qu'est-ce qui reste vraiment à compenser et à combler du côté de Brandon Bean et de Buffalo?
Le problème des Bills, c'est un petit peu un problème de riche, parce que finalement, on va en parler, il y a quelques besoins dans la défense, alors qu'ils sont la meilleure défense en titre de l'exercice, puisqu'ils ont terminé donc premier sur quasiment toutes les catégories en 2021. Mais il y a eu il y a eu un départ, il y a eu une grosse blessure pendant la saison, celle quand même de Tre'Davious White, qui, je pense, leur a d'ailleurs coûté leur place au Super Bowl. Levi Wallace est parti du côté des Steelers, donc il va vraiment leur manquer un corner numéro 2. Et après, avec leur attaque explosive menée par Josh Allen, ce qui pêche parfois, c'est le jeu de course. Donc on a vu Singletary beaucoup mieux en fin de saison, et notamment en playoff. Zach Moss, ça reste quand même pour l'instant un petit peu en demi-teinte et un petit peu sur courant alternatif. Donc étoffer un petit peu la course, ou leur faciliter la vie en étoffant un peu la ligne. Voilà ce qui peut leur permettre de passer le dernier cap qui leur manque.
Ouais, tout à fait. Après, il y a toujours quelques petites interrogations, pas des interrogations, mais en tout cas, on voit que ces dernières années, il y a une ligue où, chez les grosses formations, on n'hésite pas à blinder sur le poste de receveur. C'est sûr qu'il y a des très bons titulaires avec Diggs et Davis désormais. Derrière, j'en parlais, il y a Crowder, peut-être éventuellement McKenzie, éventuellement qui va rentrer dans la rotation. Mais voilà, peut-être que si on a envie de dynamiser un petit peu plus cette escouade-là, surtout vu la classe de receveurs qu'on ne cesse de vanter jour après jour dans cette QV 2022, il y a quand même de quoi faire. Donc c'est vrai que je te rejoins, il y a quelques ajustements éventuellement à faire, notamment au niveau du backfield défensif, et puis peut-être en attaque, quelques petites armes supplémentaires, notamment pour optimiser le présent et anticiper l'avenir, parce qu'on va peut-être en parler tout à l'heure, mais il y aura quelques free agents importants à venir dans l'entourage de Josh Allen. Tu as donc le lead concernant les Buffalo Bills, Alex, avec la 25e position du coup. Qu'est-ce qu'on choisit en priorité de considérer du côté de Buffalo?
Ah bah, j'en ai parlé un petit peu. Moi, je pars donc sur la défense et sur le poste de corner. Pourquoi corner et pas receveur? Tu l'as dit, malgré la classe particulièrement qualitative cette année. Stephon Diggs vient de prolonger un très beau contrat. Gabriel Davis a vraiment brillé en playoff et a montré que c'était un vrai numéro 2. Donc, prendre un receveur si haut, j'en verrais pas l'utilité dans la mesure où ils ont leur numéro 1 et leur numéro 2. Tu prends pas un receveur au premier tour, je pense, pour avoir un numéro 3. Donc, je pars sur un corner et en l'occurrence, je pars sur Andrew Booth Jr. de Clemson. Alors, j'en avais parlé dans d'autres émissions. J'aime beaucoup Trent McDuffie, mais bon, je ne vais pas en parler à toutes les émissions. Mais s'il était disponible, ça pourrait être une solution. Mais Booth, le corner de Clemson, c'est un très bon joueur également. Il est bon en homme à homme. C'est un excellent joueur un excellent défenseur contre la course, ce qui, à mon avis, ne déplaira pas à son futur coach, Sean McDermott. Il a plutôt des grands bras pour sa taille. Ça en fait un joueur capable de gêner les receveurs et de leur voler des ballons. Il a fait notamment 3 interceptions cette saison. Alors, le petit souci, ça peut être ses pépins physiques et une relative inexpérience, parce qu'il a vraiment été titulaire que cette saison à Clemson. Pour autant, je pense qu'en tant que numéro 2, parce qu'on part du principe que White étant un des top 3, maximum top 5, mais je pense top 3 corner de la ligue, il a surtout donc besoin de quelqu'un à son opposé. Booth est un petit peu plus grand que White, donc ça pourrait être intéressant pour marquer les receveurs un peu plus grands. Donc voilà, c'est mon choix pour solidifier ce backfield qui est une force. Mais voilà, il manque vraiment quand même, il manque vraiment du monde finalement derrière White.
Alors, c'est sûr, je vais essayer de ne pas faire de répétition au niveau des positions, on va dire, du côté de Buffalo. Je te rejoins totalement sur la logique du cornerback. J'aurais sans doute été dans cette direction-là. Si on veut vraiment trouver une petite alternative, qui ne serait pas déconnante. D'ailleurs, un point qu'on n'a peut-être pas abordé, c'est que ce ne serait peut-être pas inintéressant pour Buffalo de faire un trade down. Si vraiment il n'y a pas un joueur qui les passionne sur la 25e position, dans le sens où, j'en parlais tout à l'heure, il y a des free agents notables l'année prochaine. Il me semble que Saffold a été signé pour une seule saison. Ford et Morse seront également free agents l'année prochaine. Et la question qui va se poser également, c'est de savoir si Spencer Brown, qui a priori, donc rookie en 2021, qui a démontré des très bonnes choses sur le poste de tackle droit, peut être vraiment un titulaire à plein temps sur la position de tackle. Moi, il y a un choix qui m'intriguerait beaucoup, qui je pense ne sera pas disponible au deuxième tour, mais qui peut l'être au premier, voire au début deuxième via un trade down pour Buffalo. C'est Bernard Raimann, dont on ne cesse de parler, qui a un peu en plus cette faculté à pouvoir être polyvalent dans un premier temps, même si on peut en voir potentiellement un tackle prometteur dans les années à venir. Ça peut en tout cas être un joueur qui, dans la logique que tu expliquais tout à l'heure, avec un jeu au sol qui doit être boosté, on a vu qu'à Central Michigan, c'était quelqu'un qui était capable de faire beaucoup, beaucoup de différence dans ce domaine-là. Donc voilà, joueur extrêmement, extrêmement agressif, très bon technicien également. Donc mine de rien, pas mal de qualités assez similaires à Spencer Brown, mais peut-être un profil un peu plus polyvalent encore que Brown et un peu plus aguerri à sa sortie d'université. Donc voilà, si vraiment Buffalo se sent la volonté de renforcer les lignes pour protéger un peu plus son quarterback, développer son jeu au sol, etc., etc., ça peut être une solution éventuellement de tenter Bernard Raimann, peut-être dans un premier temps sur l'intérieur, voire directement en tackle droit, si vraiment Spencer Brown est peut-être plus précieux dans la rotation. Du coup, le deuxième tour, on va partir sur un... Alors, j'ai vendu un peu le truc dans le sens où j'avais proposé mon alternative. Après, si je reste sur ta logique également d'un cornerback. Alors, j'avais Dylan Parham de Memphis également, mais bon, on va peut-être pas faire que de la ligne offensive du côté de Buffalo, ça va finir par se voir. Non, par contre, ce qui peut être intéressant, c'est d'apporter un petit peu de vitesse au niveau de cette escouade de receveur notamment, puisque tu le disais, hein, ce n'est pas non plus un besoin absolu. Je pense qu'avec un troisième ou un quatrième tour, pour trouver un receveur, on va dire, décent derrière, ce sera quelque chose d'intéressant. Un choix qui, moi, m'intriguerait beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il sera encore disponible à la fin du deuxième tour, mais il va peut-être falloir qu'on parle un petit peu de ce que peut proposer un Sky Moore, receveur de Western Michigan. Je les envoie que du côté du Michigan, nos amis de Buffalo. Mais en tout cas, joueur extrêmement explosif, assez compact, mais extrêmement vif, et qui, pour le coup, a vraiment démontré du côté de Western Michigan des très, très bonnes mains. C'est un joueur à qui on a donné des responsabilités après le départ notamment de Dwayne Eskridge, hein, qui est parti du côté des Seahawks relativement haut la saison dernière. Et c'est un joueur qui est présent sur le papier le même profil, mais qui est encore plus explosif, encore plus décisif, on dira, et encore plus précis dans sa manière de réaliser des tracés et de capter les ballons. Donc, encore une fois, dans une classe de receveurs qui paraît assez homogène, ce n'est pas dit qu'ils soient encore disponibles au 50, c'est 57, je crois, le spot de Buffalo, deuxième tour. Mais voilà, si d'autres équipes louchent sur d'autres receveurs tout aussi talentueux, ça peut éventuellement être une aubaine pour Buffalo pour être assez complémentaire de Dix, qui est un receveur de possession, et Davis, qui est peut-être un receveur de taille un peu plus axé sur du jeu vertical.
Ouais, je te rejoins sur le profil, effectivement, complètement complémentaire. Moi, je suis parti, alors, pour le coup, je reste en attaque, mais je suis parti sur le backfield avec un coureur. Alors, c'est peut-être un peu haut, un deuxième tour pour Buffalo sur un coureur. Mais comme je l'ai dit, Zach Moss ne m'a pas vraiment rassuré pour ces deux premières saisons. Donc, je partirais sur Brice Hall d'Iowa State. C'est un joueur qui a montré qu'il savait marquer, hein, parce qu'il a quand même 40 touchdowns ces deux dernières saisons. Il est capable d'apporter des solutions aussi en sortie de backfield. Alors, pas forcément dans un rôle de coureur-receveur, mais sur des petites passes sur latérales. Il a une bonne vision du jeu. Il va peut-être manquer un petit peu de puissance, mais je pense que ça peut être un ajout important. Et comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, il manque ce jeu de course. Alors, dominant, c'est encore une fois, Brice Hall, il n'est pas là pour être un coureur numéro un, mais vraiment pour s'intégrer dans le comité et partager les portées, notamment avec Singletary. Donc, je pense que c'est ce qui va aider Josh Allen à peut-être aussi lui moins se servir de ses jambes, parce qu'il court beaucoup et ça pourra peut-être un jour lui porter préjudice en cas de mauvais choc. Donc, il faut trouver ce moyen de mieux l'entourer à ce niveau-là.
Oui, je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter. C'est vrai que la principale chose qui inquiète sur Brice Hall, c'est sa durée de vie, entre guillemets, oui, voilà, lui qui a été vraiment surrincé du côté d'Iowa State. Après, on a vu Christian McCaffrey, même s'il traîne un petit peu la jambe aujourd'hui, ça ne l'a pas dérangé dans les premières années. Enfin, en tout cas, ça ne l'a pas empêché d'être hyper productif. Et on a vu que également Jonathan Taylor, hyper exploité du côté de Stanford, continuait d'être assez performant du côté des Colts ces dernières années. Donc,
après, s'il est bon pendant juste 3 ans ou 4 ans avant d'être complètement cuit, ça peut leur suffire pour aller
là où ils veulent
aller.
Oui, c'est ça. Voilà.
C'est triste à dire. Hein, mais,
win now, comme on dit.
S'il leur met 10 touchdowns chaque saison pendant 3 ans, ça, je pense que ça, le pari sera réussi. Après, voilà, deuxième tour, c'est peut-être un peu haut pour un coureur. Hein. J'entends Victor qui me souffle dans l'oreillette que c'est beaucoup trop haut. Mais bon, Brice Hall, c'est quand même un joueur qui a prouvé qu'il était productif. Il a eu des votes au Heisman la saison dernière. C'est pas n'importe quel coureur. Pour partager les portées dans un comité, je pense que ça peut être un bon deal pour McDermott et son staff.
Très bien. On va parler des sleepers à présent. Et je crois qu'on va retourner de nouveau du côté de la O-line.
Oui. Alors, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, la O-line, c'est un problème à Buffalo. C'est vrai qu'on aurait pu... Enfin, j'aurais pu choisir des options sur assez tôt dans la draft. Moi, je pars plutôt sur un sleeper dont le nom n'est pas étranger à la NFL, puisqu'il s'agit d'Alec Lindstrom, donc le frère d'un garde que tu connais bien, qui joue aux Falcons. Mm-hmm. Donc Alec Nickstrom, c'est un centre de Boston College. Il faut savoir donc que Mitch Morse sera en fin de contrat la saison prochaine. Il n'est pas non plus tout jeune. Donc Lindstrom a montré à Boston College, à côté donc de Zion Johnson, en l'occurrence, oui, c'est ça, qui est lui prévu plutôt au premier tour. 3 ans d'expérience comme titulaire à Boston College, c'est un joueur solide et je pense qu'une année derrière un titulaire comme Morse, à être couvé par toute l'expertise et le sérieux du staff des Bills, pourrait lui permettre d'être la solution d'avenir à partir de 2023. Donc je pense que fin quatrième, peut-être même cinquième tour, c'est à peu près par là que moi je le vois. Je pense que c'est un pari à plutôt essayer sur cette année.
Alors, un joueur que j'ai placé en sleeper, qui a longtemps été dans mes discussions pour un premier tour, mais qui, je pense, de par le processus draft, c'est pas forcément aidé. En tout cas, a pas mal baissé dans la hiérarchie aux yeux de pas mal d'observateurs. J'en fais à l'heure actuelle un quatrième tour. Donc, je le garde quand même relativement haut, on va dire, mais malgré tout dans une position où ça peut être une bonne affaire pour Buffalo. Et je reviens du côté du backfield défensif en étant assez intrigué par le profil d'Alante Taylor. Cornerback de Tennessee, cornerback extrêmement physique, appliqué sur le run stop, justement, qui a démontré des qualités athlétiques absolument dingues du côté des Volunteers. Et qui peut être, je pense, un joueur assez polyvalent dans le sens où on l'attend sur un profil de cornerback au départ, mais ce ne serait pas impossible qu'il devienne à terme un free safety, justement, vu les aptitudes qu'il a réussi à démontrer. Et ça peut être intéressant dans le sens où il y a des besoins immédiats sur le poste de corner du côté de Buffalo et qu'on a, par exemple, un Jordan Poyer qui rentre dans sa dernière année de contrat, qui va bientôt avoir 31 ou 32 ans de mémoire. Donc, où ça va peut-être être un poste sur lequel il va falloir renforcer un petit peu plus, fournir un petit peu plus, en tout cas, ce backfield défensif. Donc, le profil d'Alante Taylor... sur une fin de quatrième tour, ce ne serait pas forcément quelque chose de déconnant, surtout encore une fois pour un joueur qui peut apporter de la vitesse, du physique, tout ce qui peut plaire en somme à Sean McDermott dans cette défense new-yorkaise. Alors, d'ailleurs, je ne l'ai pas cité, mais c'est vrai qu'en songeant au profil d'Alante Taylor, je me suis dit, vu qu'on parle de DB, un Daxton Hill, par exemple, dont on a du mal à imaginer où il pourrait se projeter en NFL vu le vrai profil couteau suisse qu'il peut avoir. Buffalo, ça peut être un point de chute dès le premier tour si vraiment on veut en faire un joueur vraiment capable d'exceller partout sur le backfield défensif et de brouiller les cartes pour les attaques adverses constamment. Quoi. Mais bon, ça,
c'est juste non, mais pour je la te rejoins. Parenthèse. Non, mais t'as pas tort parce qu'en plus, Hyde et Poyer sont pas tout jeunes, donc de leur trouver une solution aussi pour l'avenir, c'est pas non plus déconnant.
Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur les Buffalo Bills. Je te remercie Alex d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve dès demain pour parler notamment des Tennessee Titans. D'ici là, passez une très bonne journée et n'oubliez pas que toute l'actualité de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Salut à tous.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.